Comment a-t-on pu placer à la tête de l'Union européenne Jean-Claude Juncker, l'homme qui incarne le cynisme des paradis fiscaux ? C'est à cette question que tente de répondre Eva Joly, ex-magistrate et élue députée européenne en région Île-de-France pour Europe Écologie Les Verts, dans son livre « Le loup dans la bergerie » paru aux éditions Les Arènes et coécrit avec la journaliste Guillemette Faure, aussi chroniqueuse à M, le magazine du Monde, et à RTL. Elle y dénonce les exactions de celui qu'elle surnomme Dr Jekyll pour son côté affable et humaniste en public et Monsieur Hyde comme étant le protecteur de l'opacité financière et des arrangements occultes. Jean-Claude Juncker, qui pendant 20 ans a œuvré à la prospérité du Luxembourg, ce paradis pour les banquiers et les fraudeurs fiscaux, est aujourd'hui le triste visage de l'Union européenne. Depuis, des lanceurs d'alerte ont tiré la sonnette d'alarme et ont fait jaillir les scandales financiers de LuxLeaks et plus récemment les Panama Papers, donnant ainsi un bon coup de pied dans la fourmilière opaque des magouilles capitalistes. Dévorer le loup dans la bergerie, dernier livre d'Eva Joly, est un acte citoyen essentiel pour comprendre les mystères et les absurdités d'un système économique souverain pourri jusqu'à la moelle. Entretien avec l'auteur, invité le 1er mai sur le 15e salon du livre d'expression populaire et de critique sociale d'Arras, autour de ce livre coup de poing et révélateur du désarroi de l'Europe face à un loup aux dents très longues. On est ici sur la 15e édition du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale d'Arras pour parler de votre livre, Le Loup dans la Bergerie, hein, donc aux éditions Les Arènes. C'est votre première fois hein, d'ailleurs hein, sur le Salon du Livre.
Oui, c'est ma première présence ici au Festival d'Arras.
J'imagine que votre enquête a dû être compliquée pour avoir accès à certains documents.
Pas vraiment. Je veux dire, je n'ai fait que de prendre tout ce qui est public sur la carrière et la vie de Jean-Claude Juncker et le mettre un peu en perspective et d'essayer de répondre à la question comment est-ce que cela a été possible de mettre cet homme-là à la tête de la Commission européenne. C'est ça l'objet du livre.
Alors vous dites justement dans votre livre, hein, l'accession de Jean-Claude Juncker au pouvoir est pourtant la preuve qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de l'Europe. Hein, c'est un peu une phrase shakespearienne, pourriez-vous me commenter un peu ça ?
Oui, c'est exactement ça la théorie de ce livre. Parce que qui est Jean-Claude Juncker ? Jean-Claude Juncker a été premier ministre du Luxembourg de 2005 à 2013, la période pendant laquelle on a criminalisé le secret bancaire et où on a facilité pour les multinationales le fait qu'ils ne payent pas d'impôts dans le pays où ils opèrent. Le Luxembourg est le complice du non-paiement d'impôts des grandes entreprises en France, en Grèce, et dans tous les pays européens. Et évidemment, c'est extraordinairement grave. Et c'est extraordinairement grave d'avoir à la tête de la Commission Jean-Claude Juncker, l'homme qui fait que justement en Grèce, les entreprises implantées ne payent pas d'impôts parce qu'ils ont des filiales chez lui. Et ces filiales ne rapportent même pas énormément à Luxembourg, mais ils touchent sur des recettes pour lesquels ils n'ont aucun droit en réalité. Et je raconte comment tout cela a été possible. Et la crise grecque, pour moi, a été insupportable. De voir que c'est Dijsselbloem, qui est la tête d'Eurogroupe aujourd'hui, et Juncker, qui sont les deux artisans au sein de l'Union européenne, du non-paiement justement de l'impôt, et donc s'attaquer aux retraités et aux petits salaires, réduire, exiger la réduction des salaires, alors qu'ils sont à l'origine de ce détournement, ça a un côté insupportable.
Alors, vous disiez en parlant du Luxembourg, dans votre livre, être originaire d'un petit pays vous fait peser plus lourd politiquement en Europe. Vous pouvez m'expliquer un peu ?
Oui, ça tient au fait que les grands pays ont peur qu'un autre grand pays les représente. Les Allemands n'ont pas envie que ça soit la France n'a pas envie que ça soit un Allemand, et du coup on se met d'accord sur un petit pays. C'est moins grave d'avoir un président de la Commission du Portugal ou du Luxembourg que de l'avoir de l'Angleterre ou d'un pays qui est vécu comme beaucoup plus concurrent. Vous savez, si vous prenez une carte mondiale, le Luxembourg, vous ne le voyez à peine. C'est un point sur la carte. Le Luxembourg, c'est un tiers du département de Loire-et-Cher.
Jean-Claude Juncker, il est devenu président donc de l'Eurogroupe en 2005 grâce à son triple A. Pouvez-vous nous rappeler un petit peu ce que ça signifie ?
Ça veut dire que la dette publique luxembourgeoise est considérée comme totalement sûre. Vous savez, le nombre de A, c'est le rating, c'est l'évaluation du risque pour les investisseurs. Donc ça veut dire qu'acheter les obligations luxembourgeoises, c'est totalement sûr. Et la France avait perdu son triple A il y a un certain temps. Et le triple A, Juncker l'a eu grâce à ce vol de recettes fiscales d'autres pays. Et simplement, comment cela se fait-il qu'on a laissé faire cela ou qu'on l'a voulu ? Et c'est ça le contenu de mon livre, quoi. Je réponds à cette question.
Quel est votre sentiment donc, sur les révélations aussi de LuxLeaks et les lanceurs d'alerte qui sont menacés d'emprisonnement alors qu'ils ne devraient pas l'être normalement ?
Bon, c'est justement cet inversement de valeurs contre lequel je me révolte. On voit que ceux qui agissent à l'intérêt général, Edouard Perrin et Antoine Deltour, il y a aussi une autre personne, eux, ils sont renvoyés sur le fondement d'un texte qui est le secret d'affaires, justement. Et ce texte, malheureusement, il vient d'être voté pour être valable dans toute l'Union européenne. Jusqu'à maintenant, il y avait notamment le Luxembourg qui avait ce texte. Et on voit ce que ça donne. Ça permet de criminaliser les lanceurs d'alerte. Et donc, renvoyer Antoine Deltour, Edouard Perrin, devant le tribunal pour répondre de violation du secret professionnel, c'est un contresens absolu. Ceux qui devraient être dans le box, c'est évidemment les multinationales qui se sont soustraits à l'impôt commun. Et ça, je voudrais faire une parenthèse là-dessus. En France, c'est constitutionnel, l'égalité des citoyens devant l'impôt. Et ce n'est pas parce qu'on a créé un trou noir de la finance au sein de l'Union européenne, au Luxembourg, et que ces montages, qui sont totalement factices, permettent, par exemple, à McDonald's en France de ne pas payer d'impôts, ou très peu d'impôts en France, que c'est en réalité légal en France. Et ça, il faut les tester devant les tribunaux. Et ça, pour moi, le Luxembourg est réellement complice de fraude fiscale. Il y a le principe donc, d'égalité des citoyens devant l'impôt, ce qui veut dire que le fabricant de sandwich du coin, qui lui paye 30% de bénéfices, 30% sur ses bénéfices, il devrait poursuivre l'État parce qu'il devrait bénéficier des mêmes taux d'imposition que McDonald's. Le problème, voyez-vous, c'est que nous ne connaissons pas réellement ce taux d'imposition parce que tout cela s'est traité directement à Bercy, qui garde secret tous les éléments. Donc, nous avons su qu'il y avait un redressement de McDonald's. Nous connaissons le montant, mais nous ne connaissons pas le périmètre. Donc, on ne peut pas calculer le pourcentage. De même, le libraire d'Arras, où nous sommes, de la Grande Place, devrait faire un procès pour dire « Vous me traitez d'une façon inconstitutionnelle, car je paye plus d'impôts que Amazon. »
Si on évoque aussi l'influence de Juncker sur les médias, parce que malgré tout, on peut y faire référence, surtout au communiqué d'excuses de la direction de France Inter, après que Stéphane Guillon l'a dépeint en coureur de jupons. Quel est votre sentiment là-dessus ? Est-ce qu'il pèse vraiment sur les médias, Juncker ?
Oui, alors là, c'est l'excuse qu'Arlette Chabot avait signée alors qu'elle avait dit la pure vérité. Et pourquoi elle a fait ça, il faut le lui demander. Mais c'est la crainte de procès, oui, c'est la crainte de désagrément. Dire la vérité suffit pas, vous savez. Il faut pouvoir le prouver au moment où vous le dites. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile de mettre à jour le détail de Luxembourg comme le voleur de produits fiscaux d'autres pays, parce que justement, nous avons LuxLeaks et que nous avons les Panama Papers. Et que dans les Panama Papers, on voit que les banques implantées au Luxembourg sont à l'origine de la commande auprès de Fonseca de un quart de ce véhicule destiné à blanchir les fonds illicites.
Vous évoquez aussi dans votre livre le reporting pays par pays. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Alors ça, c'est une exigence ancienne des Verts et aussi de Tax Justice Network, des personnes qui travaillent pour la transparence. Aujourd'hui, les multinationales présentent des comptes consolidés où vous voyez le bénéfice global, mais vous ne voyez pas où ils ont gagné leur argent. Et nous voulons que McDonald's, Amazon, Skype, tous les autres déclarent ce qu'ils gagnent en France. Donc on veut plusieurs critères. On veut le chiffre d'affaires, les impôts payés, le nombre de salariés, le montant des investissements pour pouvoir se rendre compte de la réalité de la vie économique. Parce que l'idée, c'est qu'en faisant cela, on va s'apercevoir que les revenus de la BNP ou de la Société Générale par leur filiale au Luxembourg est trois fois plus important par salarié qu'à Paris. Et donc ça permet de poser la question suivante, comment cela se fait-il que l'activité luxembourgeoise soit tellement plus rentable ? Et donc c'est un pas vers la transparence et donc une action plus efficace.
Le Bureau 6 également, cette agence gouvernementale chargée d'établir la fiscalité des entreprises installées au Luxembourg, dirigée par Marius Kohl, et cette fameuse page manquante, pourriez-vous me dire deux mots là-dessus ?
Alors ça, c'est tout Juncker, vous savez qu'il a une tendance à répondre à côté, à faire des grosses plaisanteries, et en ce qui concerne ce rapport, il y avait une page très explicite, c'est un rapport de M. Créquet qui mettait en garde Juncker sur le danger que ces tax ruling excessifs faisaient courir à Luxembourg. Mais ce rapport, on a essayé de le supprimer de la connaissance du public depuis très longtemps, et notamment cette page. Et un de mes collègues, Fabio De Massi, a eu entre les mains cette page. Et lorsque Juncker est passé en audition devant notre commission taxe, il a posé la question. Et bon, il y a eu une explication très très confuse et relativement nouvelle, qui était que plutôt que de dire « c'est vrai que je l'ai arraché parce que c'était compromettant pour moi », il a dit cette page a disparu parce que nous voulions restructurer le service fiscaux et que cela était gênant. Et c'est là où vous voyez celui qui croyait prendre est pris, parce que dans le procès qui sont faits Antoine Deltour, bien imprudemment, on sait aujourd'hui ce qui c'était réellement que ce bureau numéro 6. Ce n'est que la succursale de Ernst & Young et les autres auditeurs. En réalité, ce qui était censé être un service fiscal recevait de PricewaterhouseCoopers ou les autres les tax rulings directement sur papier en tête du ministère. C'est-à-dire que c'est complètement préparé, complètement entre les mains. Ça veut dire que, et nous savons aujourd'hui, qu'il n'y avait aucune évaluation d'aucune sorte de la demande. C'était toujours accepté. C'était tamponné. Et là, il y a le témoignage du garçon qui était là en soutien, en fait, qui faisait des photocopies, et qui explique que lorsque les demandes étaient déposées le matin, 90% étaient acceptées dans l'après-midi. Donc aujourd'hui, nous savons que tout ça, c'est totalement artificiel.
Cette stratégie aussi du name-shaming qui consiste à nommer les banques et les personnalités impliquées, est-ce que c'est révélateur d'une prise de conscience citoyenne, entre guillemets, pour informer le grand public?
Je pense, oui. Vous savez bien que connaître les noms des choses, savoir les nommer, permet de les réfléchir. Aussi longtemps qu'on ne sait pas, aussi longtemps qu'on ne comprend pas, on ne peut pas réfléchir. Donc, et ce n'est pas abstrait, ce n'est pas un phénomène abstrait. Il existe des multinationales qui mettent un point d'honneur à payer leurs impôts. Ils ne sont pas nombreux, et j'espère qu'avec la pression des citoyens, cela va arriver de plus en plus. Parce qu'il y a eu un changement de mentalité. Simplement, ce changement de mentalité n'a pas été enseigné dans les écoles de commerce, où ils enseignent que l'impôt est une charge qu'il faut réduire. Non, l'impôt, c'est la civilisation. Et ce n'est pas une charge, ce n'est pas un coût comme un autre. Et on n'est pas libre de l'éliminer. Et donc, ce changement, malheureusement, je pense qu'il va venir à un coût assez élevé pour ceux qui, avec une totale impunité depuis des décennies, ont aidé à cette fraude massive. Et je pense que dans les procès à venir, les banques et les intermédiaires qui ont facilité, étaient complices de cette fraude fiscale, ils vont prendre de la prison ferme et ils vont tomber de haut.
Selon vous, est-ce que la France dispose-t-elle des moyens et les met-elle vraiment en place pour lutter contre la fraude fiscale? Elle est estimée par la Commission européenne à 1000 milliards par an pour le seul continent européen. La France est 24e au classement de l'ONG Transparency International. Quel est votre sentiment donc concernant un peu les responsables du gouvernement français?
Vous avez pu lire dans mon livre que je n'estime pas que Moscovici pousse les limites de sa fonction au bout. J'estime qu'il est très prudent et j'estime qu'il a pris le parti de Juncker d'être en deçà de la main. Je dois dire que je ne le comprends pas. Et j'estime que beaucoup d'autres personnes à sa place auraient fait beaucoup mieux. Mais ça, l'histoire nous le dira peut-être. Je pense qu'il y a cette prudence, il y a cette complicité qui est dû en partie au service qui a rendu le Luxembourg dans nos négociations et nos deals d'armement, dans la libération des otages. Et donc le fait que ce système rendait beaucoup de services, mais au détriment des citoyens, ça il faut bien le comprendre.
Le plan de lutte contre l'optimisation fiscale agressive des grands groupes est aujourd'hui signé par 62 pays. Pensez-vous que c'est assez suffisant? Et est-ce qu'il faudrait constituer des équipes judiciaires spécialisées pour lutter contre les fraudes fiscales?
Alors, ça c'est extraordinairement important de bien le comprendre. En France, la brigade financière, qui était un outil exceptionnel, a été décapitée et a été privée d'à peu près la moitié de ses agents. On a créé une autre agence qui est de grande qualité, qui est donc l'agence de lutte contre la grande criminalité économique et fiscale, qui est dirigée par Thomas de Rykolfis, qui est un grand commissaire. Simplement, ils sont débordés, ils sont peu nombreux. Beaucoup d'agences sont parties maintenant pour s'occuper du terrorisme ou d'autres choses. Et donc, ils sont peut-être, ils sont quelques dizaines. Et ils étaient déjà au taquet avant le Panama Papers ou avant LuxLeaks. Et donc, la France a fait ce qu'il fallait faire. Ou Eliane Houlette, qui dirige le parquet national financier, a réagi immédiatement et d'une façon tout à fait appropriée. Elle a ouvert une information. Simplement, au bout, il n'y a pas de bouton sur lequel appuyer, parce que lorsque cette enquête arrive chez Thomas de Rykolfis, il va le confier à qui, quoi. Et que les agents qui sont là, leur agenda est déjà rempli. Et en plus, beaucoup d'agents de qualité sont partis. Et il a maintenant des gens de moins de grande expérience. Donc pour remédier à cela, il faut exiger la création d'un team multidisciplinaire dédié aux Panama Papers, qui ne peut pas être moins de 50 personnes. Et si je dis ça, c'est parce que je fais cela en Islande. Après la crise de 2008, en Islande, où ils n'avaient aucune expérience de la criminalité économique, ils ont établi un team qui est allé jusqu'à 100 personnes et qui sont encore aujourd'hui à 50. Moyennant quoi, ils ont pu établir la responsabilité des banquiers. Les banquiers islandais ont été condamnés à 5 ans d'emprisonnement et leurs biens confisqués. Et bien à raison. Et c'est-à-dire qu'on a établi très précisément leur responsabilité. Et c'est ça qu'il faut ici aussi faire. Mais pour y arriver, ce n'est pas abstrait, c'est très concret. Il faut des forces d'enquête. Personne n'est condamné sinon. Et donc, ces forces d'enquête, il faut les puiser. On peut puiser dans ce qu'on appelle la réserve judiciaire, qui sont des magistrats qui viennent de prendre leur retraite, mais qui souhaitent encore travailler. On peut aussi prendre les jeunes retraités policiers et peut-être aussi ouvrir un concours exceptionnel. Parce qu'on n'a pas besoin de savoir très bien tirer et courir pour être un enquêteur financier. Donc on pourrait là recruter des experts comptables, des gens avec un autre profil, rapidement, n'est-ce pas? Et dire qu'il nous faut un grand team si nous voulons que l'impunité prenne fin. Je pense, moi, que la démocratie française souffre de cette impunité parce que l'impunité, elle résulte aussi du débordement et de l'insuffisance de ressources. C'est le résultat. En France, l'impunité est en partie voulue, est en partie politique. Je pense que pour les Panama Papers, il y a une volonté, mais on risque de se heurter au fait que tout sature, que la justice est sous l'eau. Et donc là, il faut que la solidarité nationale... Et vous voyez, c'est très peu de monde par rapport à ce que demande la lutte contre le terrorisme. Donc là, il faut faire un arbitrage et dire que pour les sentiments de justice, cette fois-ci, les banques et les intermédiaires et les individus, évidemment, qui ont créé les Panama Papers, ils doivent être jugés.
Avant de terminer cet entretien avec Eva Joly, on évoque avec elle la politique passée et actuelle d'Europe Écologie Les Verts, ainsi que l'actualité du mouvement Nuit Debout.
Vous étiez en campagne pour les élections présidentielles en 2012 avec Europe Écologie Les Verts. Hein. Depuis, on sent quand même que le parti est un peu tiraillé et dispersé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste des questions internes d'Europe Écologie Les Verts. Moi, je suis dans ce parti pour l'estime et l'amitié que j'ai pour énormément de militants, et notamment ici, dans le Hauts-de-France et dans cette ville. Je connais la qualité des gens. Et d'une certaine façon, ils ne méritent pas le parti qu'ils ont eu. Et je pense qu'il y a là beaucoup de circonstances différentes, et je pense qu'il y a une rencontre aussi avec beaucoup d'ambition personnelle et manque de rigueur de la part de personnes investies d'autorité et de confiance des citoyens qui ont trahi cette confiance parce que le but de leur vie n'était pas de lutter pour l'écologie, mais c'était de devenir ministre. Donc, voilà.
Si Nicolas Hulot se présente en 2017, vous allez soutenir?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est lui qui pourrait réunir le plus largement sur son nom des voix dans l'intérêt de la cause écologique, environnementale, parce que pour que l'écologie soit prise au sérieux, c'est sûr que mes 2,3% à l'élection présidentielle n'a pas aidé a imposé à François Hollande qu'on doit fermer des centrales nucléaires, que c'est dangereux, que ça va nous péter à la figure, et que la transition énergétique, c'est non négociable. Et lorsqu'on voit ces hommes politiques qui tournent avec leur logiciel, vieux comme eux, ils n'ont pas intégré l'écologie. Et donc, moi, mon objectif là, c'est réellement que les candidats écologiques fassent 15%, 20%, qu'ils soient devant les socialistes et qu'on impose à le prochain gouvernement que l'écologie soit au centre. Et je pense que Nicolas Hulot est peut-être et sans doute notre meilleure carte s'il accepte d'y aller.
Europe Écologie Les Verts tiendra son congrès les 11 et 12 juin. Alors il y avait environ 15 000 militants actifs en 2012 et 2013. À l'heure d'aujourd'hui, hein, selon Canard Enchaîné, ils ne sont plus que 1300. Comment vous allez faire pour rassembler ?
Écoutez, je ne connais pas les chiffres, donc je ne peux pas confirmer ou infirmer. Ce que je sais, c'est qu'il faut que nous arrivions à donner envie de venir chez nous. Et pour ça, il faut aussi que nous améliorons notre pédagogie. Il faut que nous arrivions à dire mieux aux citoyens combien nous sommes porteurs de solutions. Et moi, je pense qu'ici, dans le Hauts-de-France, vous le savez bien, puisque vous êtes dans la troisième révolution industrielle et qu'il y a des emplois créés dans la transition énergétique ici. Donc c'est ça qu'il faudrait avoir au niveau national.
Dernière question bonus. Ça concerne le mouvement Nuit Debout. J'aurais voulu avoir votre sentiment, à savoir aussi que la première Nuit Debout à Arras se fait ce soir à partir de 20h.
C'est une très bonne nouvelle que Arras se met à avoir des nuits intenses et riches. Cela me rappelle le titre d'un très beau livre de Marie Biédou, « Mes nuits sont plus belles que vos jours ».
Vous êtes intéressé au mouvement à Paris, Place de la République ?
Alors, moi, j'ai une faiblesse, vous voyez, moi, je dors la nuit. Et que mes journées sont tellement pleines que je n'ai pas pu passer mes nuits debout, non.
C'était un entretien en compagnie d'Eva Joly, co-auteur avec Guillemette Faure du livre Le loup dans la bergerie, paru aux éditions Les Arènes. Elle était invitée sur la 15e édition du Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale d'Arras, le 1er mai dernier.